25. Vasile Degnador était un homme de petite taille, aux traits délicats, avec une façon de vous regarder en levant les yeux sans lever la tête. Ceci combiné avec de brefs sourires qui illuminaient périodiquement son visage, lui donnait l'air de se rire du monde en silence. Son bureau, étroit et long, était rempli de bandes magnétiques, apparemment dans le plus grand désordre. Impression due au fait qu'elles n'étaient pas régulièrement disposées dans leur casier, ce qui donnait aux étagères un aspect de mâchoire édentée. Les trois sièges, qu'il indiqua à ses visiteurs, étaient dépareillés et trahissaient un dépoussiérage récent, quoique imparfait.
Janoff Pellorat, Golan Trévis et Joie. J'ai peur de n'avoir pas saisi votre nom, madame.
Joie est mon seul nom usuel, lui répondit-elle avant de s'asseoir.
C'est bien assez, somme toute,
dit Degnador en lui lançant une œillade.
Vous êtes assez séduisante pour qu'on vous pardonne cette lacune.
Tous étaient assis à présent.
J'ai entendu parler de vous, docteur Pellorat, bien que nous n'ayons jamais correspondu. Vous êtes de la Fondation, n'est-ce pas? De Terminus.
Effectivement, docteur Degnador.
Et vous, conseiller Trévis, il me semble avoir entendu récemment que vous auriez été renvoyé du conseil et exilé. Je crois bien n'en avoir pas saisi la raison.
Non, pas renvoyé, monsieur. Je suis toujours membre du conseil, même si j'ignore quand je vais reprendre mes fonctions. Ni tout à fait exilé. On m'a assigné une mission au sujet de laquelle nous aimerions vous consulter.
Ravi de pouvoir vous aider. Et notre joyeuse amie est-elle également de Terminus?
Trévis s'interposa rapidement. Elle vient d'ailleurs, docteur.
Ah, un monde bien étrange, cet ailleurs. Une surprenante quantité d'individus en son natif. Mais puisque deux d'entre vous proviennent de la capitale de la Fondation à Terminus, que la troisième personne est une séduisante jeune femme, et que Mitza Lysalor n'est pas connue pour son affection pour l'une ou l'autre catégorie, comment se fait-il qu'elle vous recommande aussi chaudement auprès de moi?
Je crois, dit Trévis, que c'est pour se débarrasser de nous. Plus tôt vous nous aiderez, voyez-vous, plus tôt nous aurons quitté Comporellon.
Degnador lorgna Trévis avec intérêt, à nouveau ce sourire pétillant, et répondit
« Évidemment, un vigoureux jeune homme tel que vous ne peut qu'être attirant, quelles que soient ses origines. Elle sait assez bien jouer le rôle de la froide vestale, mais pas encore à la perfection. »
« Je ne vois pas ce que vous voulez dire, » dit Trévis guindé.
« Et vous auriez intérêt à continuer, en public du moins, mais je suis un sceptique et donc par profession peu enclin à me fier aux apparences. Eh bien, dites-moi, conseiller, quelle est votre mission? Que je sache si je puis vous aider. »
« En cette affaire, le docteur Pellorat est notre porte-parole. »«
Je n'y vois aucune objection, docteur Pellorat. »
« Pour simplifier au maximum, cher docteur, j'ai toute ma vie d'adulte tenté de pénétrer le fond de connaissances ayant trait au monde sur lequel l'espèce humaine est née, et je me suis trouvé expédié avec mon bon ami Golan Trévis, bien que pour être précis, ne le connaissant pas encore à l'époque, au fin de découvrir, si nous le pouvions, l'ancien, puisque c'est ainsi, je crois, que vous l'appelez.
L'ancien?
Fit Degnador.
Je suppose que vous parlez de la Terre.
Pellorat en resta bouche bée. Puis, bafouillant légèrement, il reprit.
J'avais l'impression, enfin, on m'avait fait comprendre qu'il ne fallait pas...
Il se tourna vers Trévis, quelque peu désemparé. Ce dernier enchaîna. Le ministre Lysalor m'a dit qu'on ne devait pas utiliser ce terme sur Comporellon.
Vous voulez dire qu'elle a fait ça?
Degnador fit la moue, fronça le nez et projeta vigoureusement les bras en avant, croisant les deux premiers doigts de chaque main.
Oui,
fit Trévis. C'est bien ce que je veux dire.
Degnador se détendit et éclata de rire.
« Baliverne, messieurs! Nous faisons cela par pure habitude, et dans les contrées arriérées, peut-être prend-on encore la chose au sérieux, mais en général, personne n'y prête attention. Je ne connais pas de comporélien qui ne dira pas « terre » alors, quand il est ennuyé ou surpris, c'est le vulgarisme le plus commun que nous ayons. »«
Vulgarisme ?
s'étonna faiblement Pélorate.
« Gros mot, si vous préférez. »«
Quoi qu'il en soit, » reprit Trévise. Le ministre apparut toute bouleversée quand j'ai utilisé ce terme.
« Bon, elle descend de ces montagnes. »«
Que voulez-vous dire, monsieur ?»«
Exactement ce que ça veut dire. Mitsa Lizalor est originaire de la chaîne centrale. Les enfants là-bas sont élevés selon ce qu'on appelle les bonnes vieilles méthodes, ce qui signifie que, si bien éduqués soient-ils, vous ne pourrez jamais leur ôter cette manie de croiser les doigts. »
« Alors le mot terre ne vous gêne pas du tout, n'est-ce pas, docteur ?»
dit Joie.
« Aucunement, chère madame. Je suis un sceptique. »
« Je sais ce que signifie ce terme en galactique, » intervint Trévise. « Mais dans quel sens l'utilisez-vous ? » ?»«
Exactement dans le même que vous, conseiller. Je n'accepte que ce que je suis forcé d'accepter suivant des preuves raisonnablement fiables. » Et maintient cette acceptation provisoire dans l'attente de preuves ultérieures. Cela ne nous rend pas populaires.
Pourquoi ça ? Dit Trévise.
Nous ne serions populaires nulle part. Quelle est la planète dont les habitants ne préféreraient pas une croyance confortable, douillette et bien rodée, si illogique soit-elle, au vent frisqué de l'incertitude ? Voyez comment vous croyez au plan Seldon sans la moindre preuve.
Oui, admit Trévise en étudiant le bout de ses doigts. J'évoquais également cet exemple pas plus tard qu'hier.
Puis-je revenir au sujet, mon bon ami ?
Intervint Pélorate.
Que sait-on de la Terre qu'un sceptique serait prêt à accepter ?
Fort peu de choses, répondit Déniador. Nous pouvons assumer qu'il existe une planète unique sur laquelle l'espèce humaine s'est développée, parce qu'il est hautement improbable que des espèces assez identiques pour que les croisements soient fertiles se soient développées sur plusieurs planètes, voire sur deux seulement, de façon indépendante. Nous pouvons choisir de baptiser Terre ce monde des origines. Il semble raisonnablement probable que la Terre ait pu exister quelque part dans ce coin de la galaxie, car les planètes y sont inhabituellement anciennes, et il y a de fortes chances que les premiers mondes à avoir été colonisés aient été proches de la Terre plutôt qu'éloignés. Et la Terre a-t-elle quelques caractéristiques particulières en dehors d'être la planète des origines ?
S'empressa de demander Pélorate.
« Auriez-vous une idée en tête ?»
remarqua Déniador avec son sourire vif. « Je songeais à son satellite, que d'aucuns appellent la Lune. Voilà quelque chose d'inhabituel, n'est-ce pas ?»«
C'est une question fondamentale, docteur Pélorate. Voilà qui pourrait me suggérer des idées. »«
Je n'ai pas encore dit ce qui rendait la Lune inhabituelle. »«
Sa taille ? Bien entendu. Je ne me trompe pas ?»« Non. » « Je vois bien que non. Toutes les légendes concernant la Terre parlent de sa vaste gamme d'espèces vivantes et de son vaste satellite. Un satellite de quelque 3000 ou 3500 kilomètres de diamètre. L'extrême variété de la vie est une chose aisée à admettre puisqu'elle serait la résultante naturelle de l'évolution biologique si nos connaissances sur le processus sont exactes. Un satellite géant est en revanche plus difficile à accepter. Aucune autre planète habitée de la galaxie n'en est pourvue. Les satellites de grande taille sont invariablement associés aux géantes gazeuses inhabitables et inhabitées. En tant que sceptique, par conséquent, je préfère ne pas accepter l'existence de la Lune.
Si la Terre est unique par sa possession de millions d'espèces, remarqua Pélorate, ne peut-elle pas l'être également par la possession d'un satellite géant ? L'un pourrait entraîner l'autre. »
Déniador sourit.
« Je ne vois pas comment la présence de millions d'espèces sur la Terre pourrait créer un satellite géant à partir de rien. »
« Mais l'inverse, peut-être qu'un satellite géant pourrait contribuer à la création de millions d'espèces.
Je ne vois pas non plus comment. »
« Et cette histoire de radioactivité de la Terre, sans qui Trévise ?
C'est une histoire et une croyance universellement répandues.
Mais, reprit Trévise, La Terre n'a pu être radioactive au point d'empêcher la vie durant les milliards d'années où elle l'a abritée. Comment alors l'est-elle devenue? Une guerre nucléaire?
Une guerre nucléaire? C'est l'opinion la plus répandue, conseiller Trévise.
À la manière dont vous le dites, je crois deviner que vous n'en croyez rien.
Il n'y a aucune preuve qu'une telle guerre ait eu lieu. Une croyance commune, et même une croyance universellement répandue, n'est pas en soi une preuve.
Que pourrait-il s'être produit d'autre?
Rien ne prouve qu'il se soit produit quoi que ce soit. La radioactivité pourrait être une pure invention, au même titre que le satellite géant.
Quelle est la version de l'histoire de la Terre le plus généralement admise?
Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai pu collationner une vaste quantité de légendes sur les origines, dont bon nombre évoquent une planète nommée Terre ou quelques noms très similaires. Je n'en possède aucune venue de Comporélon.
Non, vous ne risquez pas. Nous n'avons pas coutume d'exporter nos légendes. Superstition encore.
Mais vous n'êtes pas superstitieux et vous n'hésiteriez pas à en parler, n'est-ce pas?
C'est exact,
dit le petit historien, levant les yeux vers Pellorate.
Le fer ajouterait considérablement, peut-être même dangereusement, à mon impopularité. Mais vous allez tous les trois bientôt quitter Comporélon. Et j'imagine que vous ne me citerez jamais comme votre source.
Vous avez ma parole d'honneur, répondit aussitôt Pellorate.
Alors, voici un résumé de ce qui est censé s'être produit, élagué de tout aspect surnaturel ou moralisateur. La Terre fut durant une période incommensurable l'unique monde abritant des êtres humains. Puis, il y a 20 ou 25 000 ans, la découverte du saut hyperspatial a permis à l'espèce humaine de développer le voyage interstellaire et de coloniser un groupe de planètes. Les premiers colons ont utilisé des robots qui avaient été conçus à l'origine sur Terre avant l'époque du voyage hyperspatial. Vous savez ce qu'est un robot, au fait?
Oui, dit Trévise. On nous a posé plus d'une fois la question. Nous savons ce qu'est un robot.
Avec une société entièrement robotisée, les colons, qui avaient développé une technologie évoluée et une longévité inhabituelle, méprisaient la planète de leurs ancêtres. S'il faut en croire les versions les plus dramatiques de l'histoire, ils dominèrent et opprimèrent ce monde même. Finalement, la Terre envoya un nouveau groupe de colons au sein desquels les robots étaient interdits. Comporélon devait être l'un des premiers de ces nouveaux mondes. Nos patriotes soutiennent que c'était bel et bien le premier, mais on n'en a aucune preuve acceptable par un sceptique. Le premier groupe de colons s'est éteint. Et
pourquoi s'est-il éteint, docteur Deniador? L'interrompit Trévise.
Pourquoi? En général, nos romantiques imaginent qu'ils ont été punis par celui qui châtie, bien que personne ne se préoccupe d'expliquer pourquoi il aurait attendu si longtemps. Mais on n'a pas besoin de recourir à des contes de fées. On peut estimer sans peine qu'une société totalement dépendante de robots devienne molle et décadente et finisse par s'étioler et mourir de pur ennui ou, plus subtilement, en perdant la volonté de vivre. La seconde vague de colons, sans robots, survécut et s'empara de toute la galaxie. Mais la Terre, devenue radioactive, disparut lentement de la scène. La raison généralement invoquée étant qu'il devait y avoir des robots sur Terre également, puisque la première vague avait encouragé leur emploi.
Joie, qui avait écouté le récit non sans manifester une certaine impatience, l'interrompit.
« Eh bien, docteur Deniador, radioactivité ou pas, et quel que soit le nombre de vagues de colonisation, la question cruciale demeure simple. » Où se trouve exactement la Terre? Quelles sont ses coordonnées?
La réponse à la question est... Je n'en sais rien. Mais venez, il est l'heure de déjeuner. Je peux nous faire apporter un repas, ainsi pourrons-nous ensuite continuer à discuter de la Terre aussi longtemps que vous le voudrez.
Vous n'en savez rien? S'exclama Trévise d'une voix perçante.
À vrai dire, à ma connaissance... « Personne ne le sait. »«
Mais c'est impossible. »«
Conseiller,
répondit Déniador avec un doux soupir.
« Si vous souhaitez qualifier la vérité d'impossible, libre à vous. Mais cela ne vous mènera nulle part.